France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Hopkinson Smith, je suis né à New York en 1946 et je suis musicien.
Du répertoire, parce qu'on effleure là des idées de la technique, l'instrument, quand vous dites que vous cherchez d'ailleurs, c'est sur quel instrument que vous vous tournez le matin comme ça?
Ça dépend du moment, du répertoire que j'ai fait. Parce que je viens de faire un petit interlude sur la musique anglaise de 1615-25. Donc c'est la génération après Dowland. Mais normalement, les prochains concerts, et jusqu'à la fin de l'année, c'est avec le luth six cœurs. Et c'est les premières sources de musique italienne et française du XVIe siècle. Donc, normalement, c'est le luth six cœurs que je prends le matin pour faire mes recherches.
Les cœurs, ce sont les cordes.
C'est la double corde. Ou bien, normalement, le luth six cœurs a cinq doubles cordes. Et la première corde simple. Mais les chœurs, normalement, c'est la double corde.
Ça va jusqu'à 13?
Il y a le luth baroque qui a 13 chœurs. Il y a le théorbe qui a 14 cordes. Parce que c'est normalement des cordes simples. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de variations dans la famille des luths.
Alors, si on pense répertoire, vous évoquez là la génération d'après Dowland, mais enfin, Dowland lui-même, c'est quand même une figure majeure de l'écriture et du répertoire de luth.
Tout à fait.
Un art de la mélancolie, quand même, assez souvent aussi.
Oui, mais non seulement. Il est un compositeur très profond. Et si tu regardes les textes de ses chansons, c'est normal que. On est surtout attrahi par les douleurs.
Les larmes.
La profondeur, les larmes, voilà, tout ce qui est noir et obscur et terriblement...
douloureux, bouleversant.
Voilà. Mais c'est quelqu'un qui avait aussi un sens d'humeur très vif et qui a des choses pour faire rire et même des choses, des différentes gaillards, par exemple, qui sont quelquefois des portraits musicaux des personnages qui ont beaucoup d'énergie et de virtuosité. Donc, c'est quelqu'un qui a une énorme palette expressive, même si on l'associe surtout avec la douleur.
Et est-ce que ces humeurs-là, cette mélancolie, ça atteint le musicien?
Absolument. Oui, mais si tu entres par la musique, si tu entres par le texte, tu as des textes chez Dowland qui sont tellement sombres et tellement obscurs et tellement durs que si tu vraiment le lis, si « In darkness let me dwell », c'est presque la note de suicide qu'il écrit. Donc, il faut que ça soit présenté en concert dans un contexte qui l'illumine. Pas n'importe groupe de chansons, sinon c'est terriblement dur. Et c'est vraiment l'avant-garde de l'expression pour les émotions qui enveloppent l'esprit. Donc le défi pour le luthiste, c'est de retrouver des ressources expressives en soi-même qui peuvent donner la vie à un texte comme ça. Et donc, on a quelquefois des moments de grande profondeur avec le luth seul, ou bien dans le cas de Dowland, quelquefois avec les chansons. Parce qu'il y a, par exemple, « I saw my lady weep ». C'est tellement touchant et terrible. Whose face was full of woe, but such a woe, believe me, as wins more hearts than mirth can do with her enticing parts. Que la douleur dans le visage était à une beauté et mène une beauté qui est beaucoup plus que la gaieté pouvait jamais offrir. Donc, et là, il a fait, au moins pour la première strophe, il a fait une manière de convaincre tout à fait complètement de ce genre de douleur. Instrument, c'est très intéressant, c'est très important, vraiment, parce qu'un bon instrument t'ouvre les possibilités. Mais je pense à la situation où tu as un nouveau instrument qui tout d'un coup t'ouvre beaucoup des dimensions nouveaux, et que tout d'un coup tu retrouves quelque chose qui te laisse exprimer quelque chose, même peut-être tu ne savais pas qu'existait dans ce répertoire. Et donc, c'est un aspect de ça.
Le seul instrument, vous avez une histoire quand même avec Joël Van Lennep, qui a fabriqué quasiment, j'ai l'impression, en tout cas, nombre d'instruments que vous avez. C'est un véritable compagnonnage avec ce facteur-là d'instruments.
Oui. Avec Joël, on est intimement connectés depuis plusieurs décades. On a habité dans la même maison, près de Boston. Et il m'a fait le luth 6 cœurs, le luth 8 cœurs, de 2 luths 8 cœurs, 10 cœurs, 11 cœurs, 13 cœurs, terrobe allemand. C'est quelqu'un qui partage beaucoup des mêmes qualités esthétiques que moi et qui a beaucoup ouvert mes possibilités aussi par les possibilités de ses instruments. Et Van Lennep, c'est un très bon musicien. Il est un peu moins flexible qu'avant, maintenant, physiquement. Il a 80 ans. Et c'est toujours quelqu'un avec une oreille très acute, très, très fine, et qui a des observations très profondes sur la musique. Je me souviens qu'une fois, j'ai joué à Londres pour la Société de luth Angleterre. Et j'avais joué avec mon luth en sol, 8 cœurs, mais fait par Joe Van Lennep. Et après le concert, il y a Michael Lowe, qui est un extraordinaire luthier anglais, qui est venu. Il voulait voir l'instrument. Il a touché la première corde pendant 5 minutes. Il voulait comprendre cette sonorité qui sortait de l'instrument. Donc, il y a un élément de profondeur et de richesse intérieure dans les instruments de Joël Van Lennep qui m'a beaucoup accompagné dans la vie. Et je suis éternellement reconnaissant à lui pour cette complicité.
Thank you.
a un répertoire essentiel, Hopkinson Smith, dans ce que vous pratiquez comme musique, qui est celui de la transcription. C'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé, que vous continuez à travailler. Je pense par exemple à ce que vous avez fait autour de la musique de Jean-Sébastien Bach, à la fois les partitas de violon, les suites pour violoncelle, où là aussi les instruments de Van Lennep vont pouvoir permettre de jouer ces transcriptions. Mais j'aurais aimé que vous nous fassiez partager comment c'est un art, la transcription. Quelles œuvres on choisit? Comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que ce sont des grands moments de doute, d'errance?
Le grand art, c'est Jean-Sébastien Bach, pas la transcription. Ce que j'essaie de faire... Non, je fais un pas en arrière. Bach lui-même avait arrangé, transcrit plusieurs œuvres d'un instrument pour un autre instrument. Donc on a déjà le modèle de Bach, ou bien l'idée. Et ce qu'on essaie de faire sur le luth ou le théorbe, c'est d'imaginer ce que Bach aurait fait. Et là, on ne saurait jamais, naturellement. Mais essayer de faire sortir ce que, par exemple, dans le violon ou le violoncelle, c'est impossible de faire, de trouver plutôt les racines polyphoniques de la musique et le réaliser sur ton instrument. On sait, il y a un commentaire historique qui dit que souvent, ou de temps en temps, Bach se mettait au clavicorde et jouait les sonates et partitas de violon en version polyphonique en rajoutant les voix qui sont impossibles sur le violon. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire au luth. Et donc, tu me demandes si j'ai des doutes. Finalement, je crois que l'artiste doute. Si tu imagines Orfeo, l'Orfeo, le grand Orfeo, il va dans l'enfer, il regarde si Eurydice est là, parce qu'il doute. Et c'est un aspect de l'artiste. Mais donc, la chose dure avec Bach, c'est que souvent les motifs ne se prêtent pas directement à l'instrument.
Mais oui, comment on remplace l'archet, par exemple, d'une certaine façon?
C'est pas remplacer l'archet, c'est réaliser la polyphonie suggérée par la version pour archet. Naturellement, l'archet va toujours avoir plus de possibilités de maintenir. Mais cette intensité, il faut le trouver avec des autres moyens sur le corps pincé. Et donc, on a les basses, on a la possibilité polyphonique, et on essaie de, avec ces moyens, de créer une version vraisemblable pour l'époque de Bach. Et je dis toujours que souvent la violence de l'archet sur le violon est un peu comme la mer quand c'est féroce et fait des grandes vagues sur la côte. Tandis que le luth va à l'intérieur et plutôt dans un paysage docile. Mais on veut aussi avoir la brillance de violon quand c'est suggéré, ou bien de violoncelle. Donc le violoncelle, les trois premières suites de violoncelle sont un peu plus mélodiques, un peu plus amicales dans les tonalités, tandis que les trois dernières suites sont plus spéciales. La cordatura du cinquième, la tonalité du quatrième, et le violoncelle à cinq cordes pour le sixième. Donc, c'est un thème, on pourrait parler.
En tout cas, vous n'avez pas utilisé le même instrument pour les trois premières et les trois dernières.
C'est vrai.
Pour les suites de violoncelle.
Voilà. Donc, j'avais une idée pour les trois premières suites de violoncelle que l'instrument qui convient le mieux, c'est un accord qu'on connaît qu'existait, mais qui un accord d'instrument qui n'a pas de répertoire soliste. Mais on sait que c'est ce genre d'instrument que Sylvius Weiss avait joué pour la musique d'ensemble.
Sylvius Weiss, c'est un contemporain de Bach?
Contemporain de Bach, le grand Sylvius Weiss, le compositeur le plus productif de tous les temps pour le luth, toute une histoire, là. Mais juste pour l'expliquer, l'utilisage de l'instrument. Donc, c'est un instrument pour sa richesse des basses et pour les tonalités qu'on choisisse pour transposer, où cette musique se prête bien à l'instrument. Au moins, moi, je le vois comme ça, c'est ma solution. Il y a beaucoup d'autres solutions qui ne sont pas toujours aussi convaincantes pour moi.
Peu parler du répertoire français, le vieux Gautier par exemple, c'est quand même important.
Oui.
Quelle serait la spécificité de cette musique postérieure à Athénian ?
C'est déjà un autre instrument avec un accord, l'accord de luth baroque en ré mineur, où on a déjà la poésie présente avec les cordes vides. Et donc, il y a tout un rapport avec ces accords et ces tonalités fa dièse mineur, la majeur, ré mineur, qui sortent directement de l'instrument. Parce que c'est une musique qui est née sur le manche de l'instrument. Et c'est déjà un peu plus bas. Tu as donc le luth que j'avais utilisé, de Van Lennep d'ailleurs. Pour vieux Gautier, je crois que je l'ai accordé en Do mineur au lieu de Ré mineur, c'est-à-dire Ré mineur mais 392 Hertz comme hauteur. Et il y a des préludes, des pavanes, des allemandes, des tombeaux et beaucoup de pièces du livre Robarts. Robarts, c'est une source anglaise avec beaucoup de pièces de musique, de répertoire français dans la première moitié du XVIIe siècle. Et donc, c'est un monde totalement différent. Et pendant que Athénian est inspiré très souvent par la musique populaire, vieux Gautier est beaucoup inspiré par l'intériorité de l'instrument, la résonance intérieure et ses couleurs qui t'amènent dans une autre dimension.
Les tonalités déjà choisies, fa dièse mineur, ré mineur, sont quand même des tonalités qui...
Oui, voilà. Et les tonalités de fa dièse mineur, c'est la tonalité de la chèvre, on dit. Pourquoi la chèvre ? Parce que la chèvre a quelque chose de diabolique. Et donc, on retrouve dans ces pièces, surtout la suite en fa dièse mineur, on retrouve une curieuse énigmatisme qui provoque des réactions chimiques dans l'auditeur et dans le luthiste qui est très spécial.
La couleur est une composante, ça, à la radio on ne voit pas les gestes, mais la couleur est une composante narrative.
Mais la narrative n'est pas exclusivement vieux Gautier. Le côté narratif, c'est quelque chose qui peut se retrouver en chaque répertoire.
Ça aussi, c'est la quête d'une vie, de chercher la couleur, la bonne couleur.
Voilà. Thank you.
L'idée de diriger, c'est quelque chose que vous avez caressé ou que vous caressez encore, parce que ça pourrait tout à fait...
J'aurais peut-être les possibilités de diriger, mais j'ai fait pendant 2 années avec un orchestre d'étudiants en Espagne, des essais, et c'était dans l'année de la centenaire du Sacre de Printemps de Stravinsky. Et il y avait plusieurs articles dans le journal sur le Sacre de Printemps et le chaos que la création avait produit. Et donc, j'ai pensé, ah, peut-être bien, je vais aller dans cette direction. Donc, j'ai acheté la partition du Sacre de Printemps pour voir si je pouvais facilement résoudre ces problèmes. C'était pas le cas. C'est pour la prochaine vie, je crois.
En travaillant et en préparant cet entretien, j'ai lu évidemment beaucoup de choses. Et très régulièrement, Stravinsky revient dans vos propos. C'est un compositeur qui a une place particulière, parce que là, on a parlé beaucoup de musique ancienne, mais enfin, il n'y a pas que la musique ancienne. Et vous, comme mélomane, comme auditeur, est-ce que Stravinsky aurait une place particulière?
Moi, j'adore Stravinsky, beaucoup de choses de Stravinsky. Alban Berg aussi, il revient aussi, je crois, dans certains. Parce que Berg, il a un expressionnisme qui est tellement touchant et tellement torturé, mais un sens de couleur. J'apprécie beaucoup Alban Berg. Le concerto de violon, c'est une pièce...
À la mémoire d'un ange.
Voilà, tout à fait important au XXe siècle. Et Stravinsky, je ne sais pas. Il y a une vive créativité. Et il y a aussi un passage dans les réflexions de Stravinsky où on demande à Stravinsky, c'est les conversations avec Robert Craft. Et on lui demande s'il avait été déjà intéressé à composer pour les instruments world music, des instruments de Java, de Océanie, de l'Inde, des pays arabes, etc. Et Stravinsky avait dit, pas vraiment. Et je dois dire que dans le répertoire des instruments baroques, il y a tellement de choses intéressantes comme le viola d'amore, oboe d'amore, oboe da caccia, et surtout l'instrument, le luth, qui est le plus sensible et peut-être le plus parfait des instruments. Maybe we could stop with this, or you have more things to say.
C'est avec un clin d'œil au Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky que se termine cette série des grands entretiens avec Hopkinson Smith. Réalisation François Connac, prise de son Virginie Lorda, mixage Dofar Guérid, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
à réécouter sur francemusique.fr.